silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre Deux Mers 98.4 FM, www.re2m.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Damien, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ouais, bah tu sais bien, comme on dit hein, à chaque fois, je suis toujours très contente de retrouver les auditeurs. J'allais dire mes auditeurs, parce que je suis possessive quand même. Les auditeurs, voilà, ça fait tellement plaisir. Moi, j'aime être avec eux, voilà. J'espère qu'ils vont bien. En tout cas, mes chéris, merci de nous recevoir chez vous pour cette émission sur le cinéma. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, on vient présenter les films qui sortent aujourd'hui, donc dans les salles obscures cette semaine. Et on va débuter tout de suite avec un film de Monia Chokri qui s'appelle Babysitter.
Eh oui, Babysitter, oui, ça dure 1h27, c'est une comédie, c'est canadien et c'est français. Et Monia Chokri, c'est une réalisatrice, elle est monteuse également, elle est actrice, elle a 39 ans. Elle a 14 ans de carrière, 17 tournages à son actif quand même, un prix et 8 nominations pour à Cannes 2019 pour La femme de mon frère. C'était avec Anne-Elisabeth Basset et Patrick Yvon, ça a très très bien marché. C'était le coup de cœur du jury pour Un certain regard. Ça commençait bien, c'était chouette pour elle ça. Donc Babysitter, c'est quoi ça? C'est suite à une blague sexy devenue virale. Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va, avec l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger sur les fondements de sa misogynie et la raison à travers l'écriture d'un livre. De son côté, sa femme Nadine, en proie à une dépression, décide d'écourter son congé maternité. L'arrivée dans leur vie d'un babysitter, ou d'une babysitter, c'est beaucoup plus grave, au charme espiègle et envoûteur, va chambouler leur existence. Eh oui. Alors on a Patrick Yvon, justement, c'était, je l'ai cité tout à l'heure pour La jeune femme, pour La femme de mon frère, le film qui est sorti en 2019. Eh bien, il est toujours là et il joue le rôle de Cédric. C'est un acteur canadien. Et puis on a une actrice aussi canadienne, en fait, c'est elle, c'est Monia Chokri, qui est québécoise, elle, en réalité. Donc elle joue le rôle de Nadine. On a Steve Laplante. C'est un acteur canadien. On a Patrice Dubois qui est canadien également. On a Nadia Tereskiewicz qui est une actrice française. Et on a aussi Hubert Proulx. Lui, on le connaît physiquement. Si on n'a pas retenu son nom, on sait que c'est lui. C'est un acteur canadien, mais qu'on a souvent vu dans pas mal de films si on a l'habitude d'aller au cinéma ou de regarder le cinéma à la télévision. Alors, le film, en fait, est une adaptation d'une pièce de théâtre de la dramaturge et scénariste Catherine Léger. Alors ça date, je crois que c'était 2016, la pièce de théâtre. Voilà. En fait, Monia Chokri, la réalisatrice, est très très peu intervenue dans le texte de Catherine Léger, pour qui elle a beaucoup d'admiration d'ailleurs. Voilà pour Babysitter. Mais oui, c'est un joli film. Moi, je voulais en parler parce que j'ai dit 1h27, je crois.
Hein. Eh oui, film de Monia Chokri dans Babysitter.
Oui, Monia Chokri, oui. 39 ans, elle est toute jeune encore, voilà. Eh bien, on lui souhaite de faire encore de très, très jolis films, Monia Chokri.
Et maintenant, voilà. On continue avec Frédéric Cirulli qui, lui, nous propose un film du nom Envol.
Oh, oui, on va s'envoler. C'est l'envol, c'est une comédie française. Il est Frédéric Cerulli, il est réalisateur, il est scénariste, il est cadreur également. Il a 11 ans de carrière et 4 tournages à son actif. Oh, ben il n'est pas vieux non plus, 47 ans. Voilà, il va faire encore de jolies choses. Ah oui, en 2011, il avait réalisé, Le Thanato. Le Thanato, c'était un thriller qui a été très très bien reçu, qui a très bien marché. Un long métrage, c'était l'histoire d'un thanatopracteur. Et très amusant, hein, avec Chantal Lobby, on imagine, hein, Chantal Lobby. Elle ne fait pas dans le drame, hein, en principe. On est d'accord, c'est une grande comédienne. Et on avait Gérard Mélan également. Et donc, Frédéric Souilly, il ne fait pas que ça. Il est journaliste aussi. Il est reporter d'images. Il couvre l'actualité pour les journaux télévisés. Alors, c'est France 2, France 3, Arte, Canal+, TF1, etc. Et il travaille également pour Fox News. Fox News à New York. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça, Fox News. C'est un peu connu quand même. Et il tourne également des documentaires. Il a tourné quelques documentaires. Ça va de 26 minutes à 52 minutes, 60 minutes. Ouais. C'est un grand reporter, hein, sur TF1. Frédéric Cerulli fait tas de choses, cet homme-là. Et là, on est quoi? Alors, c'est quoi l'envol? C'est l'histoire des Castelli qui travaillent en famille depuis 3 générations. Mais aujourd'hui, ce lien si tenace qui les unit s'amenuise de jour en jour. Luna, la petite dernière, ne donne plus de nouvelles. Les affaires vont mal et il ne reste plus à Diego et Philippe que la nostalgie des jours heureux. Jusqu'à un événement, cet événement aussi tragique qu'inespéré, une seconde chance que seule la vie est capable de vous proposer. C'est mieux que rien, hein? Une seconde chance. Pourquoi pas? On voudrait tous avoir une seconde chance. Damien, tu voudrais une seconde chance, toi?
Oui, des fois.
Oui, des fois. Hein. On est d'accord. Donc, on a un très, très joli casting. Ils sont tous très connus, d'ailleurs. Hein. Pierre Santini, Bruno Puzulu, il y a Marc Duré, il y a Alice Carrel, Philippe Rigaud, Françoise Naon, Henri Concasse, Jeanne-Marie, Pascal Légitimus, bien sûr, je l'avais noté, Andrea Ferriol, moi, je suis ravie de la revoir. Cette grande, grande, grande actrice. On a Emma Colberti, Sabrina Kurzowski, Elsa Romano. Il y a peut-être des noms qu'on n'a pas retenus, mais ils sont tous connus. Là, vraiment, hein, tous les visages sont très connus. Ah oui, Frédéric Cerulli aussi. Cerulli. En 2018, il avait réalisé Help. C'était qui a très 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 bien marché, absolument, avec Frédéric et Alain Cerulli dans la famille Cerulli, voilà. Et il y avait Philippe Darman aussi dans ce film Help. Il est passé à peu près dans tous les cinémas d'ailleurs de proximité. Help, il avait très très bien, ça s'était bien passé. Mais là c'est l'envol et je pense que l'envol va bien fonctionner. En tout cas. Bon, écoutez, mes petits choux, si vous êtes un petit peu triste en ce moment, ou je sais pas, si un petit vague à l'âme, Envol, franchement, ça va vous amuser. Voilà, ça, et c'est surtout un beau casting en plus.
Et on va écouter la bande-annonce de Envol.
Ah oui, merci.
Chambre funéraire Envol, Diego Castelli à l'appareil, j'écoute.
C'est pour mon mari. Je voudrais vous le confier.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Madame Mackenzie?
Un cercueil.
Quelle est sa dernière volonté?
Quelle était sa dernière volonté?
Un gilet pare-balles. Pour la première fois, je le trouve apaisé. Tu trouves pas, ma chérie?
Mais il nous a complètement ruinés. Je te dis pas dans quelle merde on se retrouve à cause de lui.
Merde.
Madame Mackenzie?
Gilbert Toubon, huissier. De justice.
J'ai pas envie de vendre Philippot. Moi non plus.
Ce lieu est assez 3 générations.
Ah oui, là c'est.
Schématiquement, c'est assez standard.
Pas très
d'un côté, vous avez de l'envol avec des problèmes, enfin, plus précisément de gros problèmes financiers, et de l'autre, un repreneur.
Réveille-toi, c'est l'heure.
Conclusion, traite impayé égale dépôt de bilan. Classique.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui?
Arrête de me parler comme ça, je suis ton père après tout.
Mais t'as jamais pu supporter Roman. T'avais honte? Honte de nous voir ensemble. Tu sais quoi, au fond, tu m'as jamais accepté, moi, comme je suis moi.
qui, hein?
Pourquoi t'as déplacé le corps?
Lequel?
Comment lequel? L'autre?
Diego, j'ai touché à rien.
Voilà l'envol donc de Frédéric Cerulli. Et dans la conversation autour du cinéma, nous allons continuer avec un film qui s'appelle La Ruse, réalisé par John Madden.
Oui, La Ruse. La Ruse, c'est un film de guerre, il y a du drame, c'est historique. C'est britannique, c'est un film britannique qui dure 2h08. John Madden, ben oui, tu l'as dit, réalisateur, producteur exécutif. Pardon, exécutif, Jean Béguet, mon Dieu. Il est acteur également, il est britannique, il a 73 ans, 34 ans de carrière, 20 tournages quand même pour lui. Et il a un prix et 16 nominations, dont 4 d'ailleurs, 4 nominations pour Indian Palace, qui est sorti en 2012, qui a très bien marché avec Tom Wilkinson. C'était un. Et il y a eu 3 nominations, c'était un prix spécial police. Aussi pour l'affaire Rachel Singer au Festival international du film policier de Reims. Ça, c'était en 2011. Oh, il s'en sort bien avec les polars, lui. Les films un peu, qui bougent. Alors là, on est en 1943. Eh oui, les Alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable. Car il s'agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Evan Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable et ingénieuse propagande de guerre, qui s'appuie d'ailleurs sur l'existence du cadavre d'un agent secret. Ah, là, il fallait le voir pour savoir tout ce qu'il va se passer, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant ce film. On a un joli casting avec Colin Firth, qu'on aime beaucoup, Kelly MacDonald, il y a Matthew McFadden, Matthew McFadden, c'est un grand acteur qu'on connaît, on n'a peut-être pas retenu son nom complètement, mais on le connaît absolument. Très bon aussi lui. Il y a Johnny Flynn, il y a Jason Isaacs, il y a Penelope Wilton, il y a Simon Russell Bill, et il y a Mark Gatiss dans les rôles principaux. Ils sont, si on aime hein, les films de guerre, les films des années 39-40, celui-là est pour vous, hein, si vous aimez ce genre de cinéma. De toute façon, John Madden est un habitué. Et il fait des choses assez formidables. À voir pour ceux qui aiment. À voir, absolument.
Ça s'appelle La Ruse de John Madden.
Oui.
Et maintenant, c'est Marco Cruz-Painter qui, lui, nous propose l'affaire Coligny.
Ah oui, l'affaire Coligny. Là, c'est un film allemand. Hein. C'est quoi? Il y a du drame, il y a du thriller, c'est judiciaire. Ça dure 2h03. Ben oui, Marco Cruz-Painter, comme tu dis, réalisateur, scénariste, producteur allemand. Il a 45 ans, 22 ans de carrière. Il a 13 tournages quand même à son actif. Et son film, l'affaire Coligny, a une nomination au Festival international du film policier de Reims. En 2022, c'était catégorie hors compétition. Sinon, il a eu un court-métrage de 12 minutes qui a été extrêmement apprécié par le public en 1999 et ça l'a lancé après. Hop, il a pu faire donc de jolies choses, dont ce long-métrage, l'affaire Coligny. Pourquoi Fabrizio Coligny a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande? Pourquoi? Comment défendre un accusé qui refuse de parler? En enquêtant sur Fabrizio Coligny, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l'histoire allemande et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter. Alors on a Elias M. Barek qui est un acteur autrichien qui joue l'avocat. Il est très connu en Autriche, lui. J'ai vu ça. Et puis on a Franco Nero, alors là, qui joue le rôle de Coligny. C'est un acteur italien, tu le connais sûrement, Damien. Ça te dit quelque chose, Franco Nero, non?
Peut-être de vue, mais là,
ah bah oui,
de nom,
ça va me dire. Très, très, très grand acteur italien. Il a plus d'une centaine de films à son actif quand même, lui, hein, Franco Nero. Il a le rôle titre, donc. Ils sont allés. Enfin, on va en parler deux minutes après. On a Alexandra Maria Lara aussi, qui est une actrice roumaine. Enfin, elle est plutôt roumaine quand même. Oui, oui. Enfin, bon, elle travaille pas mal en France aussi. On a Janice Niewoehner qui joue le rôle de Jean-Baptiste Meyer, l'homme assassiné. On a Heiner Lauterbach aussi, qui est un acteur allemand. Manfred Zapata, qui joue le rôle de Hans Meyer. Le deuxième rôle du film, le deuxième rôle titre du film. Alors, l'affaire Coligny est adaptée d'un roman du même nom, d'ailleurs, écrit par Ferdinand von Schirach, qui a été publié en 2011. Alors, il s'agit d'une histoire d'ordre moral où le spectateur est indigné par une forme de monstruosité et il accompagne en même temps le héros dans sa quête de justice. Ça, c'est toujours assez intéressant quand même. Ici, la monstruosité, c'est la loi Dreher qui a été instaurée en 1968 et qui laissait plusieurs criminels du Troisième Reich s'en sortir impunis. Et oui, cette loi dont on n'aime pas trop parler, les Allemands n'aiment pas trop en parler, la loi Dreher justement, qui a permis à tous ces assassins, à tous ces meurtriers de s'en sortir. Je parlais évidemment ce que je viens de dire, le Troisième Reich. Et pour les scènes du tribunal, par exemple, le réalisateur a utilisé 80 figurants et il y avait 6 stars allemandes et une star internationale parmi les figurants là du tribunal. Alors, le réalisateur a envoyé une lettre personnelle à l'acteur Franco Nero, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il voulait absolument l'avoir. Il est allé le rencontrer à Rome, parce que Franco Nero réside près du Vatican. Voilà. Et alors, ils ont déjeuné sur sa terrasse, il l'a invité. Et alors, il y a une histoire un peu cocasse quand même. C'est pour ça que je parle de ce repas. À la fin de ce repas, la chaise en plastique du réalisateur a craqué. C'est-à-dire de Marco Crosspainter, hein. Et il s'est retrouvé assis par terre. Et à ce moment-là, il était un peu mal à l'aise, mais aussitôt, presque aussitôt, hein, quelques minutes après, la chaise de Franco Nero a craqué à son tour. Du coup, ils ont éclaté de rire tous les deux et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Voilà. Et le réalisateur a ajouté qu'une réelle amitié est née entre nous. Il suffit, voilà, de casser sa chaise, de se retrouver les fesses en l'air à deux, et on devient les meilleurs amis du monde. C'est mignon comme histoire, tu trouves pas ? L'affaire Coligny, voilà.
L'affaire Coligny de Marco Crosspainter. Oui. Et maintenant, avec Elisabeth Vogler, nous retrouvons le film Année 20.
Ah oui, Anne et 20. Ah oui, Elisabeth Vogler. Alors c'est un drame français qui dure 1h30. Bon, elle est réalisatrice, scénariste, elle est également, directrice de la photographie. C'est une Française. Anne et 20 a une nomination Nouveau Regard au Festival du film francophone d'Angoulême 2021. Et c'est quoi Anne et 20 ? Alors, quelques heures à Paris, un soir d'été en 2020, la caméra suit un passant, puis l'autre, voyageant à travers les rues de la ville et multipliant de curieuses rencontres. Jeunes excentriques, personnages originaux et anticonformistes. Ah oui, des gens quand même, c'est pas très banal hein, quand même. Hein. Ce sont des personnages qui sortent de l'ordinaire. Au cours d'un seul plan ininterrompu, la caméra lie les personnages à travers un même territoire et une même époque en crise que chacun traverse et questionne à sa manière. Alors on a Noémie Schmitt, on a Mehdi Djahadi, Alice de Langsin, François Marc, on les connaît, la plupart on les connaît, Paul Scarfuglio, on a Manuel Sévry, on a François Rollin, il y en a 3-4 qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu au cinéma. C'est un joli casting, sympathique en fait. Année 20, ouais.
Année 20, et on va écouter la bande-annonce.
La bande-annonce, merci, oui. D'accord.
La période que tu vis en ce moment, c'est un bouleversement pour toi.
Excuse-moi, c'est pas toi, Julie ? Toi, tu regardes jamais de porno ?
Si. Tu étais à 3 mètres. Lueur qui se prélasse.
Mais toi, tu veux parler art ? Mais vas-y, dis-moi, dans la vraie vie des gens, il y a quoi autour ?
Tu veux pas parler ?
Non.
Ma vie, c'est une cascade, mon frère. Ma vie, c'est une cascade.
Même seul chez moi, je mets le masque. Je préfère.
Moi, j'avoue, je jouis quand je suis toute seule, quand je me sens hyper en sécurité, je me touche.
50 étés, mec. Il me reste 50 étés.
Edouard que t'as connu, c'est terminé. Voilà.
Oh, je t'en veux. Et j'ai vu un gamin.
J'ai fait des trucs sauvages.
T'as raison, Ricky, on a qu'une vie. Allez, c'est parti, opération tonnerre.
Non, tu m'écoutes pas, là.
J'ai trop de questions, là. Juste, faut avancer.
Et là, c'est l'air le plus pur de Paname, gros.
Tu sais que un siècle commence vraiment à partir des années 20.
Je te parle du noir, le plus noir.
Oh, on est même associé à la maladie.
Ça y est, la bague. C'est une histoire d'histoire. Tu crois que c'est quoi? C'est pour le plaisir de faire un jogging, gros?
Mais je sais pas, frère. Tu te tournes ma gueule tout à l'heure, là.
Et là, ça va commencer maintenant.
Et voilà, année 20, et donc on parle bien des années 2020.
C'est oui, ça. Oui. Ah ben oui. Oui.
Et maintenant, c'est le deuxième épisode de Downton Abbey, une nouvelle ère de Simon Curtis.
Eh oui, Simon Curtis, c'est britannique, hein, Downton Abbey 2, une nouvelle ère. Oh, mais beaucoup de gens sont attachés à cette histoire. Ben, le premier Downton Abbey 2 est sorti en 2019. Là, c'était Michael Engler qui réalisait. Ben, c'est un drame historique, hein, on connaît quand même, 2h06, c'est britannique. Simon Curtis est un réalisateur, producteur exécutif britannique. Il a 62 ans, il a 30 ans de carrière, 31 tournages à peu près, il a 2 nominations. Ah oui, alors son film a très bien marché à l'époque. En 2012, il a réalisé My Week with Marilyn. Marilyn Monroe, bien sûr, la grande. Et c'était Michael Williams qui jouait le rôle de Marilyn. C'était pas mal d'ailleurs. C'est pas... Enfin, je parle de l'actrice. Parce que moi, j'adore, mes chéris, j'adore Marilyn Monroe. Alors, j'appréhendais, je me souviens... Je me demandais si l'actrice allait pouvoir rivaliser avec Marilyn Monroe. Oui, non, elle s'en est très, très bien sortie. Il y avait Eddie Redmayne aussi. Et Eddie Redmayne qu'on retrouve dans Les Animaux Fantastiques. Hein, c'est lui qui a un rôle principal là-dedans. Donc là, c'est quoi? Ben, c'est le film événement. C'est le retour. Voilà, c'est écrit comme ça. Très attendu. C'est un retour extrêmement attendu même. Du phénomène mondial qui réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France. Et mais oui, ça se passe en France, afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse Douairière. Donc on a les mêmes acteurs que dans le premier. On a Hugh Bonneville, bon, ils sont connus quand même, Jim Carter, Michael Dockery, on a Elizabeth McGovern, on a Tuppence Middleton. On a Maggie Smith, on a Imelda Staunton, on a Penelope Wilton dans les rôles principaux. Bon, tous les amateurs de Downton Abbey connaissent absolument les acteurs. Il n'y a pas de grande surprise, mais c'est chouette pour les amateurs, pour les fans. C'est très chouette qu'il y ait une suite comme ça. C'est pour ça que je préfère en parler quand même. Et voilà.
Downton Abbey, une nouvelle ère. Donc, voilà, c'était la proposition de Simon Curtis.
Oui,
et on va poursuivre encore et toujours dans la conversation autour du cinéma et la présentation des films de la semaine avec une réalisation de Mathieu Giraud. Ça s'appelle Sentinelle Sud.
Sud, oui. 1h36, un drame, thriller français. Ben, Mathieu Giraud, oui, tu l'as dit, réalisateur, scénariste français, c'est son deuxième long métrage. C'est son deuxième long métrage, mais c'est le premier long métrage qui sort en salle. Le premier n'est jamais sorti en salle. Donc on va dire que c'est le deuxième premier long métrage en salle. Eh bien oui, il a son film a une nomination au Festival international du film policier de Reims en 2022 dans la catégorie 109. Et c'est un voilà. Il a sinon il a réalisé en 2001 le premier court-métrage qui a très bien marché, Hautes Herbes, et son premier long-métrage qu'on n'a jamais vu dans les salles, qui est tourné en noir et blanc, s'appelle Journal 4. Il y avait Pascal Elso dedans et Jean-Christophe Bouvet, qui sont connus, les acteurs français. Ça, c'était en 2005. C'était un polar romantico-philosophique, s'il vous plaît. Dommage qu'il ne soit pas sorti dans les salles. Alors là, c'est quoi Sentinelle Sud au lendemain d'une opération clandestine qui a décimé son unité? Le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu'il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d'opium pour sauver ses deux frères. Ses deux frères d'armes, survivants. C'est important ça, pour un soldat, les frères d'armes. C'est comme des frères en fait. Donc on est capable de faire beaucoup de choses pour des frères d'armes. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n'était peut-être pas celle qu'ils croyaient. Alors on a pareil, on a un très beau casting, tout le monde est connu, là, voilà, on a Neil Schneider, c'est lui qui joue Lafayette, il est franco-canadien, hein, cet acteur. On a Sofiane Kams, on le connaît, India Air, on la connaît aussi, elle tourne beaucoup, Denis Lavant tourne pas mal aussi, David Ayala, on a Thomas Dalloz dans les rôles principaux de Sentinelle Sud. Alors le réalisateur en fait a voulu faire un film sur le retour de guerre et il a voulu aborder la thématique de fraternité. C'est ça, la fraternité pour les soldats, hein, les frères d'armes. Le film est un mélange de deux guerres. Il y a le film noir, d'un côté, c'est braquage, la dette, la tentation criminelle, etc. Et d'un autre côté, la chronique sociale et politique, c'est-à-dire les difficultés engendrées par le retour de guerre. Eh bien oui, on assiste à la quête affective de Christian, le héros, là, Christian Lafayette, et sa dimension tragique. On suit la dérive intime d'un anti-héros charismatique. C'est joli, je voulais en parler absolument parce que c'est un beau film. Vraiment. Ouais.
Et ça s'appelle Sentinelle Sud. Et oui. Maintenant, c'est Pana Panahi que l'on retrouve à la réalisation du film Hit the Road.
Oui, alors évidemment, moi j'ai pensé Hit the Road, c'est la chanson Hit the Road, Jack.
C'est ça.
Il ne revient jamais. Hit the Road, ben, c'était pas ça. Mais c'est prendre la route quand même, hein, si on traduit. Voilà, c'est un drame iranien. Il dure 1h33. Mais oui, Pana Panahi, c'est un grand, grand réalisateur. Hein. Réalisateur scénariste iranien. Bah, d'ailleurs, dans son pays, on l'apprécie beaucoup. Il a 38 ans et son film a été présenté. C'est son premier long-métrage parce qu'il a réalisé beaucoup de courts-métrages qui ont très, très bien marché, mais qui sont sortis surtout là-bas. On en a pas vu. Mais là, bon, ce premier long-métrage est présenté à la quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2021. Alors, pour la photographie de plateau, ils ont tous un prix, assistant opérateur, assistant réalisateur, etc. Donc ça s'est très bien passé pour ce premier long métrage. Alors c'est titré d'ailleurs sur l'affiche, on lit inoubliable, bouleversant, miraculeux. Un extraordinaire filmeur est né. Pana Panahi. Oui, parce que Pana Panahi, c'est le fils du grand, très grand. Alors lui, vraiment, très, 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 très connu, mais lui, il est connu un peu partout, c'est sûr, le réalisateur iranien Jafar Panahi. Donc, c'est vrai que Pana Panahi a grandi quoi, dans cet environnement de tournage de films. Il a vu beaucoup de films quand il était enfant et adolescent. Et il a été très, très conseillé et soutenu par son père. Ça, c'est bien plutôt. Alors, Hit the Road, ça se passe en Iran, de nos jours. C'est une famille qui est en route vers une destination secrète. À l'arrière de la voiture, le père arbore un plâtre. Mais s'est-il vraiment cassé la jambe? La mère rit de tout. Mais ne se retient-elle pas de pleurer? Deuxième question. Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter, de danser. Tous s'inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. Et là, franchement, on a envie de voir ce qui va se passer. Tu trouves pas, Damien ? On a envie de voir.
Oui, on veut savoir.
Ah bah oui, on veut savoir pourquoi ces gens-là ont l'air assez mystérieux, assez curieux quand même. C'est, tout ça, c'est très secret. On a Hassan Majouni qui joue le père. Ce sont des acteurs iraniens. On a Panthea Panaya qui joue la maman. On a Ryan Sarlak, c'est le petit frère. Et on a Amin Signar qui joue le grand frère. Ce sont des acteurs connus qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. C'est formidable, justement. Les premiers longs métrages, c'est fait pour ça. Surtout quand ça vient d'un autre pays. On découvre un tas de choses. Ce drame iranien peut vraiment plaire. Hein. Vraiment.
Et ça s'appelle Hit the Road.
Ouais, pour Hit the Road.
C'est ça. Et maintenant, on retourne en France avec une réalisation de Ahmed Hamidi. Ça s'appelle Le médecin imaginaire.
Oui. Évidemment, tu as pensé. Est-ce que tu as pensé aux malades imaginaires?
Tout à fait, oui, c'est un peu lié, je pense.
Moi, j'y ai pensé. Dès que j'ai lu le titre, je me dis, oh mince. Alors cette fois, c'est le médecin. Normalement, on était habitué à ce que ce soit le malade. Bon, ben voilà. Le médecin, 1h25, c'est une comédie française. Alors Ahmed Hamidi, oui, bah oui, tu l'as cité, réalisateur, scénariste, adaptateur, dialoguiste français. Il a 8 ans de carrière et 5 tournages pour lui. Et il a été nommé au César 2019 catégorie meilleur scénario original pour Le Grand Bain, sorti en 2018, qui a fait un carton quand même, hein, Le Grand Bain. C'était Guillaume Canet, c'était Benoît Poelvoorde, voilà, c'était une histoire de natation synchronisée. Si vous ne l'avez pas vu, mes chéris, franchement, il est à voir. Hein. Et c'est très drôle, il y a plein d'humour. Les acteurs sont formidables dans Le Grand Bain. Franchement, ça vaut le coup d'avoir le DVD dans sa vidéothèque. Ah oui, celui-là, oui. Eh oui, Le Grand Bain. Bon, nous allons retourner au médecin imaginaire. C'est Alex. Alex alias Didji Veu, c'est son nom, est une star du monde de la nuit, au bord du burn-out. Il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète jusqu'au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place, le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d'Abdel, qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas tout à fait. Et voilà, c'est une rencontre pour le moins inattendue. Que va-t-il se passer entre celui qui a la jambe cassée, celui qui voudrait être soignant, qui voudrait devenir être soignant et qui ne l'est pas? Pas vraiment? Eh bien, on verra. On a Clotilde Courau, on a Alban Ivanov, on a Fatsa Bouyamed, on a Brahimi Bi, on a Boudère. Ah ben Boudère, on le connaît. On a Smaïm, on les connaît tous. Hein. Smaïm Ferrouz, on a Rouhan El Kadiri, on a Saadia Ladib dans Le médecin imaginaire. Allez, ça c'est pour se détendre. Hein.
Et on écoute la bande-annonce du médecin imaginaire.
Merci, oui.
Je suis venu m'inscrire à l'examen des soignants.
Ça fait 12 ans que tu le passes. Ça fait 12 ans que tu échoues.
Jamais 213, docteur. Des globules blancs. Et ils sont bien propres, homogènes. Et le cholestérol est le montant en flèche.
On vient d'arriver au festival électro-marocco. Ce soir, gros show, je vais vous régaler. Brrr.
Vous avez dormi 18 heures. J'ai pu diagnostiquer une fracture du coccyx. Dans votre état, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Abdelkader vous apportera assistance à domicile.
24 sur 24.
Matin, midi, minuit.
Chocolat. Ah, en fait, c'est du placebo ce que tu leur donnes.
Non, c'est tic-tac. C'est l'heure du bain.
Il y a des heures pour le bain.
C'est l'odeur qu'il dit l'heure du bain. C'est pas ça.
Oh, c'est la police! Poursuivre!
À partir de dorénavant, vous êtes en état d'arrestation.
Chien.
Ils veulent pas me rendre mon passeport, je peux même pas quitter le Maroc.
Vous voulez pas mettre un bracelet électronique aussi,
On n'en a pas!
Est-ce que je peux rester avec lui en prison?
Vous êtes ici, chez vous. C'est ça l'hospitalité marocaine.
Monsieur Alain!
Alain, j'ai pas d'agir.
Pourquoi t'as sauté alors?
J'ai oublié.
C'est la musique arabe, mais du nom de vie.
Attends, regarde le strabisme qu'il a. Hop là.
Allez,
combien le strab?
Voilà, le médecin imaginaire.
Et là, c'est pour, vraiment pour se détendre.
Ah, tout à fait. C'est réalisé par Hamed Hamidi. Et nous et poursuivons maintenant avec Kadar Hamed et la femme du fossoyeur.
Oui. Alors, le titre, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la femme du fossoyeur? Bah oui. Donc là, je m'attendais pas trop à cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Je l'ai mis de côté. C'est un drame allemand, somalien, finlandais et français. Ça dure 1h22. Alors, tu l'as dit, Kadar Hamed, c'est un réalisateur scénariste. Il a 41 ans. Il est autodidacte, hein. Il s'est formé tout seul à la réalisation. Il n'a pas suivi de cours, pas d'école, rien. Chouette. Alors, c'est un Finlandais. En fait, il est finno-somali. Voilà ce qu'on peut dire. Il est né en Somalie et il est finlandais en même temps, donc c'est finno-somali. Je n'ai pas inventé le mot, hein. C'est le mot tel qu'il existe. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Voilà, Kadar Hamed. Et alors, en 2017, on lui doit le film Voyage inattendu. C'était 4 courts-métrages entre 2008 et 2019 qui ont vraiment été couronnés de succès, absolument. Ce qui lui a permis de faire plein de choses. C'était très bien. Donc le film La femme du fossoyeur a 5 nominations. Une nomination Caméra d'or au Festival de Cannes 2021, c'est joli. Il a 4 nominations à la Semaine internationale de la critique 2021. Pas mal non plus. Alors c'est quoi ça, cette histoire? Eh bien c'est l'histoire de Guled et Nasra qui sont un couple amoureux vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils. Leur fils s'appelle Mahad. Cependant, l'équilibre de leur famille est menacé. Nasra souffre d'une grave maladie rénale et doit se faire opérer d'urgence. L'opération coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts. Comment réunir l'argent pour sauver Nasra et garder une famille unie? Eh oui, comment? On a Omar Abidi qui joue le rôle de Guled, c'est un acteur finlandais. On a Yasmine Varsam, alors elle qui joue Nasra, c'est une Canadienne, elle est mannequin également. Elle a une carrière de mannequin et une carrière de comédienne, Nasra, Yasmine Varsam. On a Kadar Abdul Aziz Ibrahim, qui est un acteur finlandais. On a Senale Ali Opsier aussi dans les rôles principaux. Et donc, et c'est assez curieux parce que le fils, le petit gars qui joue le rôle de Mahad, a été trouvé seulement 2 semaines avant le début du tournage. Ils ne l'avaient pas trouvé et tout d'un coup, ils l'ont trouvé, quand même. C'était sans doute pas évident de tenir ce rôle, mais ils l'ont eu quand même. Et il est mignon, il est adorable comme tout. Alors, en fait, le film s'inspire d'un événement réel. C'est un événement qui s'est produit au début des années 2010, lorsque le bébé du frère de Kadar Hamed, c'est-à-dire le réalisateur, est mort. C'était le premier décès dans sa famille après leur déménagement d'Afrique en Finlande. Il nous dit « J'avais 16 ans, je suis né en Somalie, la guerre civile a commencé et nous avons déménagé en Éthiopie et puis en Finlande ». En Somalie et en Éthiopie, c'est ce qu'il ajoute, effectivement, on le sait quand même un peu. Il y a toujours beaucoup de fossoyeurs devant l'hôpital qui attendent que quelqu'un meure et ils l'enterrent en quelques heures. Ils sont là, nombreux, autour de l'hôpital et ils attendent. Ça se fait là-bas, comme ça, voilà. Alors le tournage a duré 21 jours parce que c'était assez serré. Hein. Il avait très peu de temps devant lui. Et tous les acteurs, enfin, la plupart des acteurs n'avaient jamais fait de cinéma, hein. Y compris d'ailleurs les deux rôles importants. Yasmine Varsam, puisqu'elle est mannequin surtout, et Omar Abdi aussi, qui jouait là son premier rôle. Alors l'opération de Nasra, en fait, coûte, nous dit le réalisateur, 5 000 $ hein, dans l'histoire. C'est le salaire annuel d'un fossoyeur. Et Guled doit trouver cette somme en 2 semaines. Son salaire d'une année, il doit le trouver en 2 semaines. C'est quand même... Alors qu'en fait, ce que nous dit le réalisateur, c'est que la situation sanitaire en Afrique subsaharienne est démente. Voilà. Les gens n'ont pas suffisamment accès aux soins parce que finalement... 5 000 $, c'est pas grand-chose au final, normalement. Mais il ajoute que c'est une opération facile à obtenir dans les pays occidentaux. Et oui, il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est important de se répéter qu'on a accès à tous les soins dans les pays occidentaux et qu'on peut se faire opérer, même si on n'a pas énormément d'argent, mais on peut toujours se faire opérer. C'est important quand même de le redire de temps en temps. Mes chéris, franchement, de ce côté-là, je pense qu'on a un peu de chance quand même. En France, on peut quand même accéder aux soins. Tout le monde peut accéder aux soins, ce qui est une excellente chose, évidemment. Voilà, la femme du fossoyeur.
Eh bien, donc, réalisation de Kadar Ahmed. Et maintenant, c'est Louana Bajrami que l'on retrouve derrière la caméra pour oui. La colline où rugissent les lionnes.
Oui, c'est joli comme titre, ça. La colline beau, où très, rugissent, très rugissent les lionnes. Alors, on s'imagine qu'il y a une colline et qu'il y a des lionnes qui rugissent. Non, mais... ça, c'est une image. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est. En fait, c'est un drame français et kosovar qui dure 1h23. Alors, Louana Bajrami. Alors, elle, Bajrami, Louana, elle, c'est une petite surdouée du cinéma. Mais vraiment, quoi. Elle a 20 ans. Elle est née au Kosovo, d'ailleurs. Elle est très jolie de surcroît. Et pourquoi pas? Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice. Et elle est costumière également, elle est française. Et c'est assez extraordinaire. Elle a 21 ans exactement. 10 ans de carrière. 16 tournages. C'est fou. Elle a 12 tournages comme actrice entre 2018-2022 et elle a 4 téléfilms à son actif entre 2011 et 2019. À 21 ans, c'est pas trop mal. En 2020, elle a eu le César du meilleur jeune espoir féminin dans Portrait de la jeune fille en feu. C'était un film extraordinaire d'ailleurs. Et qui était de Céline Sciamma, hein. Donc elle a été nommée, vue dans ce film. Elle était actrice hein, dans le Portrait de la jeune fille en feu. Elle avait un des rôles principaux d'ailleurs. Alors, et donc elle a réalisé en 2019 un court métrage En été nourrissent les baies, qui a été extrêmement bien reçu, évidemment. Et c'est quand même c'est assez extraordinaire cette jeune femme. Hein. Quelque part au Kosovo. Que se passe-t-il ? Dans un village isolé, 3 jeunes femmes voient étouffer, ben oui c'est ça, c'est étouffer, leurs rêves. Et surtout, elles voient étouffer leurs ambitions, ça c'est beaucoup plus grave. Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter. Le temps est venu de laisser rugir les lionnes. Voilà qui sont les lionnes qui rugissent sur la colline. On a Flaka Latifi, qui est une actrice française, elle est née au Kosovo, dans les rôles. Il y a 3 jeunes femmes, donc il y a Flaka Latifi, il y a Urate Chabrani, qui est une actrice qui est née au Kosovo également, il y a Hera Ballet aussi, on a Andy Bagora, qui est un acteur qui joue dans le rôle de Zem dans ce film, et on a Louana Bajrami, qui s'est donné un rôle, elle s'appelle Léna dans le film. Mais les 3 jeunes femmes dont il s'agit sont les 3 que je viens de nommer, qui sont tout à fait extraordinaires, vraiment. Tout à fait. Alors le film, donc, je ne l'ai pas dit qu'il avait eu 3 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021, une au Festival de Cannes 2021, plus l'heure de la sortie. Et oui, après avoir écrit cette histoire, pour en faire un long métrage, la question de la légitimité s'est immédiatement posée à la réalisatrice. Elle a grandi dans un petit village au Kosovo. Elle est issue d'une famille franco-kosovare. Elle a été imprégnée des 2 cultures. Et très jeune, elle fut d'ailleurs très jeune, oui, sensible aux différents modèles sociaux, familiaux, financiers et même culturels. Mais c'est une personne assez exceptionnelle de toute façon. Donc évidemment, qu'elle s'interroge sur la légitimité de son film, c'est tout à fait, ça va tout à fait avec elle, ça. Et c'est tout à son honneur. Voilà, la colline où rugissent les lionnes.
Et un dernier...
Très joli film. Oh, mes chéris, à voir quand même. Ah oui, ah oui. Si vous avez un peu de temps devant vous, il y en a d'autres à voir, mais celui-là aussi. Voilà.
Et donc, un dernier film pour aujourd'hui, ça oui. s'appelle « Pas de quartier ».
Oui, pas, tu t'es arrêté parce que c'est point de suspension dans le titre. Pas de quartier. Et le réalisateur, donc tu l'as vu.
Et c'est Paul Vecchiati.
Oui, Voilà, c'est ça. Ça dure 1h29, c'est un drame, c'est musical aussi, c'est français. Donc Paul Vicali, justement, réalisateur, scénariste, producteur français, il a, alors attention, parce qu'il continue, mais ça nous encourage quand même à continuer longtemps. Il a 91 ans, il a 55 ans de carrière, 47 tournages à son actif, il a 4 nominations. Et en 2016, il a réalisé un drame romancé qui s'appelle Le Cancre, qui a très bien marché avec Catherine Deneuve, Pascal Cerveau, qui a eu une nomination au Festival de Cannes 2016, catégorie séance spéciale. Mais il continue, Paul Vecchiali, il n'y a pas de raison, bravo, super, voilà. Alors c'est quoi Pas de quartier? C'est un musicodrame, ouais, c'est ça, un musicodrame qui se passe dans un cabaret de travestis qui veut s'ouvrir à Ramatuelle. Ramatuelle, on sait ce que c'est Ramatuelle. Ben Ramatuelle, Gérard Philippe est enterré à Ramatuelle, le grand acteur. Il y a beaucoup de théâtre là-bas. Ramatuelle était très connu pour son théâtre à l'air libre, justement. Le maire est enthousiaste, ah oui, pour ce passage du cabaret de travesti, mais son conseil municipal, eh ben oui, l'est beaucoup moins. Ils vont engager des sbires pour saboter le projet. Carrément, oh les voyous! Eh oui! Alors on a Hugo Brousseau, on a Mona Heftre, on a Franck Libert, on a Benjamin Barclay, Jérôme Soubéran, Marilyn Lattard. Ils sont connus en fait, hein. Les noms peut-être pas, mais les visages c'est sûr. C'est un casting sympathique. Pas de quartier.
Et pour...
Il faut aller voir un peu comment se passe ce sabotage, mon Dieu!
C'est ça. Et pour terminer, on va retrouver deux documentaires. Un de Nicolas Peduzzi qui s'appelle Ghost Song.
Oui, Ghost Song. Je trouvais qu'ils étaient beaux, ces deux documentaires. Alors, le premier est un documentaire français qui dure 1h16 de Nicolas Peduzzi, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie française. Il a 40 ans. C'est Houston, Texas, Alexandra, Will et Nate, se débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens comme les rêves. En chef de gang, en gosse de riche, renié, chacun affronte ses démons, tandis qu'un ouragan approche. Ghost Song, c'est la promesse d'un nouvel élan de vie entre musique, hallucination et espoir de rédemption. Le film a été présenté à l'Acide, hein, au Festival de Cannes 2021, et il a été nommé d'ailleurs dans la catégorie long métrage. On a Onde Bloodbath, qui est un acteur américain. On a un autre acteur américain, William Folsen Logan. On a, il y a presque que des Américains d'ailleurs. Nat Nichols, on a Tate Thomas dans les rôles, David McCrabble. Et on a Tammy Hampton dans les rôles principaux de Ghost Song dans ce documentaire français qui fait plus penser à un film qu'à un documentaire d'ailleurs. Très très. Alors si vous pouvez le choper, sinon le DVD sortira très rapidement. Il n'y a pas de problème, mais c'est chouette à voir. Voilà. Voilà pour Ghost Song.
Et maintenant, on retrouve notre documentaire avec le plus célèbre astronaute français, Yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales.
Ah oui, Dans les yeux de Thomas Pesquet. Ah ben oui, Thomas Pesquet. Ouh, on parle de lui depuis quand même presque plus d'un an maintenant. Hein, on en parle beaucoup. Et autre aventure spatiale. Ben oui, ça dure une heure. Alors, Thomas Pesquet a 38 ans. Il est le 10e et plus jeune astronaute français. Finalement. Eh ben oui. Alors, revivez, nous dit-on, aux côtés de Thomas Pesquet, 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d'altitude depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux sorties extrachiculaires dans le vide cosmique. Embarqué avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la Station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l'espace. Et en complément du film, en fait, il y a 5 courts-métrages sur l'espace qui sont proposés pour un programme d'une durée moyenne d'une heure, c'est ce que je disais au début. On a quand même Johnny Express qui dure 5 minutes 20 de Woo Kong-min, qui est un réalisateur sud-coréen. On a pour 12 minutes 46 Voyage dans la Lune de Georges Méliès, Oh, très joli film de Georges Méliès. Ah oui, réalisateur français illusionniste, 1861-1938. Eh oui, ce grand Georges Méliès. On a 25 minutes 54 dans les yeux de Thomas Pesquet, de Jørgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff. Alors, Jørgen Hansen, c'est un réalisateur scénariste allemand de 42 ans. Et Pierre-Emmanuel Le Goff, c'est un réalisateur scénariste producteur, distributeur français qui a le même âge d'ailleurs, ils ont tous les deux quasiment 42 ans. Et puis pour 17 minutes 06, on a Le Goût framboise de David Noblet. C'est un réalisateur, scénariste, acteur français. 15 minutes 30, on a Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. C'est un duo de réalisateurs, scénaristes français. Ils travaillent ensemble, ils font des choses pas mal du tout. Et 15 minutes 19, Sidéral de Carlos Segundo, qui est un réalisateur, scénariste brésilien. Voilà ce qu'est ce documentaire dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales.
Très bien.
C'est pour
bien.
La famille, c'est pour tout le monde.
Hein. Et très beau. C'est très, très beau. Parfait. Donc voilà tous les films présentés oui. par Anne pour cette semaine.
Oui. Et voilà, absolument.
Et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le www.r2m.com.
Oui.
Et on Mais se retrouve oui. la semaine prochaine.
Mais bien sûr. Écoute, merci, hein, merci Damien pour être là avec moi, ton soutien, tout ça. Mais bon, ça fait tellement plaisir, ça fait très plaisir de travailler avec toi, c'est sûr. Oh, mais oui, merci pour les bandes annonces. Et vous, mes petits chéris, écoutez, passez une bonne semaine. Hein. Essayez d'être heureux, soyez heureux même, allez, carrément. On va pas essayer, on va l'être. Hein. Il faut l'être. Et puis, bien profiter de la journée qui passe, hein, du matin au soir, cœur de diamant, hein, faut pas oublier ça, c'est important. Profiter des journées après tout. Hein. Et puis après, on voit ce qui se passe après. Et puis en tout cas, de toute façon, moi, on vous retrouve dans une semaine. Et n'oubliez surtout pas, mais alors surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.